Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est la première semaine des vacances de Pâques et comme je vous l'ai annoncé lors de notre précédent numéro, il y a une très nette accalmie sur le front de l'activité musicale des jours à venir. Une pause bienvenue pour bon nombre de musiciens, même si elle ne les concerne pas tous. Vous allez pouvoir le constater au cours de cette émission pour laquelle je suis très heureux de retrouver mon ami Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. À ses côtés, notre invité du jour, Christopher Gibert, fondateur et directeur artistique du chœur Dulci Jubilo et fondateur et directeur artistique du Festival de l'Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, dont la programmation de la troisième édition a été dévoilée il y a peu. Elle se déroule cette année du 14 juillet au 17 août. Elle va vous être présentée en seconde partie de ce numéro. Avant cela, nous allons revenir sur l'actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue Serge et bienvenue Christopher Gibert. Merci d'être venu du Tarn-et-Garonne pour participer en studio à cette émission. La semaine dernière, le retour arrière était tellement copieux que nous n'avons pas eu le temps de revenir sur deux événements ayant eu lieu entre le 3 et le 6 avril. Le premier, c'était un midi du Capitole qui mettait à l'honneur les lauréats des Voix Nouvelles 2023. Trois jeunes chanteurs s'y sont produits dans un programme d'air d'opéra et Robert Pénavert tenait à nous faire part de ses impressions les concernant. Voici ce que Robert n'a pas eu le temps de nous dire la semaine passée.
Donc, Voix Nouvelle est destinée à faire la promotion des jeunes chanteurs. Il y avait Héloïse Poulet, soprano. Il y avait Lotte Verstein, qui est belge. Et Léo Vermeau-Desroches, que nous retrouvons. Et ils étaient accompagnés, excellemment d'ailleurs, dois-je le dire, par Rodolphe Lopier. Alors donc, Héloïse Poulet s'est présentée dans un air extrait de Così fan tutte, un air de Despina, Una donna ai 15 anni. Et bon, il faut reconnaître que là aussi, encore une fois, il y avait un certain trac qui les animait. Tous les trois, chacun à leur tour, quand ils sont arrivés, on les sentait un peu... Quand même, il faut chanter devant un Capitole archi-comble, dont on connaît quand même la tradition lyrique, l'aficion du spectateur toulousain pour l'opéra. Donc, je comprends que les chanteurs soient un peu... pas angoissé tendu, quand même, mais un peu tendu. Mais là, déjà, qu'est-ce qu'on entend, malgré tout, chez Héloïse Poulet, une voix très homogène, une jeune cantatrice, une jeune soprano qui vraiment s'engage scéniquement sans problème. Par contre, elle n'a pas peur de bouger sur scène, d'incarner avec des mimiques, avec son visage. Bon, si la voix est un peu tendue, par contre, scéniquement, elle ne l'est pas trop. La voix est souple, c'est-à-dire elle arrive à vocaliser quand même avec beaucoup d'agilité. Bon, ensuite, suivez Lotte Verstein dans un air de Charlotte, du Werther de Jules Massenet. Alors là, on change de registre. D'abord, c'est un mezzo-soprano. Hein. Et ensuite, là, on voit une jeune cantatrice avec un bel appui, un beau phrasé, un timbre très sombre, beaucoup de musicalité, de l'émotion aussi. Un peu moins démonstratrice visuellement, mais vocalement, quand même, il se passe beaucoup de choses. Ensuite, Héloïse Poulet arrivée avec Léo Vermeau-Desroches dans l'air du premier acte du Roméo et Juliette, le duo, pardon, du premier acte de Roméo et Juliette de Gounod, ange adorable, etc., etc. C'était très intéressant à écouter. Georges Bizet revenait avec Lotte Verstein et L'amour est un oiseau rebelle de Carmen. Là, à nouveau, on retrouve cette mezzo-soprano avec beaucoup, beaucoup de ses qualités qui se confirment au fur et à mesure et une longueur de souffle absolument stupéfiante qui, à mon avis, devrait lui ouvrir peut-être d'autres répertoires du premier bel canto. Et Léo Vermeau-Desroches revenait cette fois tout seul dans Werther également, mais pourquoi m'en réveiller ? Et là, on sent qu'il est un peu plus à l'aise que dans le duo du premier acte de Roméo et Juliette. Et c'est quand même un air un peu plus vaillant, hein, pourquoi me réveiller ? Mais malgré tout, il arrive à en faire ce que font les grands avec, c'est-à-dire à le nuancer énormément. Ensuite, Mozart était de retour avec Così fan tutte, encore le duo des deux sœurs, Héloïse Poulet et Lotte Verstein. Et bon, c'était rigolo parce qu'elles sont arrivées sur scène avec leur smartphone à l'oreille. Bon, c'était marrant. Et ensuite est arrivé ce qui a été pour moi l'acmé de ce récital. Léo Vermeau-Desroches arrive avec la légende de Kleinsack, extrait des contes d'Hoffmann d'Offenbach. Et là, il s'est passé quelque chose dans la salle. Tout d'un coup, on n'a plus rien entendu, plus personne n'a toussé, plus rien, parce qu'il nous a fait une démonstration de chant français avec une prosodie absolument extraordinaire, une vaillance, une musicalité, une projection parfaitement tranchante, à mon avis, qui est capable de passer des orchestres, même un peu lourds peut-être. Voilà, des dynamiques extraordinaires. Vous savez que cette légende, c'est en trois morceaux, parce qu'au milieu, il y a une partie très legato, dans laquelle le Hoffmann rêve, blabla, etc. Et c'est la partie la plus difficile, en définitive, et qui est encadrée par deux morceaux beaucoup plus rythmés, beaucoup plus vaillants. Et ça, Léo Vermeau-Desroches arrive à le faire parfaitement. Ensuite, il y avait d'autres airs, extraits des Mamelles de Tirésias, de la Péricole, etc., du Baron Zigane. Mais bon, voilà, la messe était dite.
C'était Robert Pénavert que je salue et qui revenait donc sur le Midi du Capitole, qui mettait en lumière les lauréats des Voix Nouvelles 2023, Héloïse Poulet, Lotte Verstrahn et Léo Vermeau-Desroches, trois jeunes talents de la scène lyrique francophone à suivre de près. Nous allons avoir le plaisir de réentendre Léo Vermeau-Desroches dans un des airs qu'il a chanté le 3 avril au Théâtre du Capitole, la chanson de Kleinsack, extrait des Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach.
C'était une fois à la cour d'Eisenach un petit avorton qui se nommait Kleinsack. Il était coiffé d'un colbac et ses jambes faisaient clic-clac, clic-clac, clic-clac. Voilà, voilà Kleinsack. Clic-clac, clic-clac. Voilà, voilà, Kleinsack. Il avait une bosse en guise d'estomac, ses pieds ramifiés semblaient sortir d'un sac. Son nez était noir de tabac et sa tête faisait cric-crac, cric-crac, cric-crac. Voilà, voilà Kleinsack. Cric-crac, cric-crac. Voilà, voilà Kleinsack.
Léo Vermeau-Desroches interprétait la chanson de Kleinsack, un air des Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. Voilà un jeune chanteur que nous devrions avoir le plaisir de revoir dans les années à venir au Théâtre du Capitole, où je rappelle que le prochain opéra à l'affiche est Le Vaisseau Fantôme de Richard Wagner, dans une nouvelle production mise en scène par Michel Faux, à découvrir lors de 6 représentations du 16 au 27 mai. Nous allons rester dans le registre vocal en revenant maintenant sur le récital donné par le baryton basse Adrien Fournaison, accompagné par la pianiste Anne Bozek, dimanche 6 avril à la Chapelle des Carmélites, un événement organisé par François Henry dans le cadre de la saison sur piano historique qu'il nous avait présenté dans cette émission il y a près de 2 mois. Le piano sur lequel a joué Anne Bozek était un Streicher de 1860, piano viennois du même type que celui sur lequel Johannes Brahms composait chez lui. Dans ce programme dédié au lead, il y avait justement des pièces de Brahms en seconde partie, la première étant consacrée à des leaders de Schubert. Petit rappel d'abord sur les deux protagonistes de cette soirée. Anne Bozek est bien connue à Toulouse, où elle s'est souvent produite en duo avec son amie Sandrine Tilly, flûtiste solo de l'Orchestre National du Capitole, ou lors de productions dont elle a assuré la direction musicale au Théâtre du Capitole. C'est une grande pianiste et une remarquable accompagnatrice. Elle dirige d'ailleurs la classe d'accompagnement au CNSM de Paris, où elle a eu, entre autres élèves, Marc Mouillon, Eva Zatchik ou Adèle Charvet, ainsi qu'Adrien Fournaison. Tiens donc, le jeune chanteur a en effet étudié dans sa classe pendant 4 ans, mais il ne s'était jamais produit avec elle lors d'un récital jusqu'alors. Adrien Fournaison n'est pas non plus un inconnu à Toulouse, puisqu'il faisait partie de la distribution de Jules César dans la production de l'opéra de Handel donnée il y a quelques semaines au Capitole. On avait déjà pu y apprécier sa belle voix de baryton basse, profonde et ample, très homogène. Le 6 avril, lors de son récital, nous avons pu aussi constater l'excellence l'excellence de sa diction, surtout lorsqu'il s'agit de chanter en allemand, ce qui n'est jamais simple pour un latin. Il est vrai que le travail sur cet aspect fondamental du lied et de la mélodie est l'une des marques de fabrique de l'enseignement d'Anne Lebozec, qui a démontré une fois de plus à quel point elle était une formidable accompagnatrice. Je dirais même qu'elle inspire les chanteurs autant qu'elle les accompagne. Elle a aussi très bien présenté les leaders de Schubert et Brahms au programme de cette soirée. Anne Lebozec étant une artiste très érudite, très cultivée, magnifique moment donc, et il faut encore une fois saluer l'initiative de François Henry qui nous donne à entendre le son si particulier de ces pianos historiques sous les doigts de grands musiciens. Tout ça avec des moyens financiers très limités pour l'instant. Je vous propose de réécouter Adrien Fournaison dans une interprétation d'un lied de Franz Schubert, Harfenspieler, extrait du cycle Gesange des Harfners. Harfenspieler, un des trois leaders des Gesange des Harfners, composé par Franz Schubert et chanté ici par Adrien Fournaison. Et bien voilà encore un jeune chanteur qu'on aura plaisir à réentendre à Toulouse, et je ne doute pas que ce sera le cas dans les années à venir. Serge, il y a eu la semaine dernière, le jeudi 10 avril précisément, un concert de l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains, concert lors duquel Renaud Capuçon a dirigé l'ensemble symphonique toulousain pour la première fois, et dont la soliste invitée n'était autre que la grande Martha Argerich, qui a joué le premier concerto pour piano de Beethoven. Et alors c'était plein, ça, il fallait s'y attendre, mais ça a été... pour ce que j'en sais, parce que moi, malheureusement, je n'ai pas pu y aller, un moment extraordinaire.
Ah, extraordinaire. On s'attend à ce que Martha Argerich fasse des merveilles, puisque chaque fois qu'elle vient à Toulouse, elle vient relativement souvent à Toulouse.
Oh oui. Hein. Au moins une fois par an et parfois même deux.
Il s'agit d'un événement musical particulier chaque fois. Hein. Alors, on sait que Renaud Capuçon s'investit de plus en plus dans la direction d'orchestre. Mais là, c'était la première fois, effectivement, qu'il dirigeait l'Orchestre National du Capitole, et donc il a ouvert son concert avec l'œuvre d'une compositrice française que pour ma part je ne connaissais pas, qui s'appelait Charlotte Sohy. Elle est morte en 1955, pour la situer. Elle a été élève de Vincent Dindy, co-élève avec Nadia Boulanger d'ailleurs. Oui. Donc, et là, on a entendu une de ses rares œuvres pour orchestre, dans ce mystique qui date de 1923, qui évoque, selon ce que dit un journaliste de l'époque, l'angoisse dans les nuits sans lune des femmes primitives apeurées par l'absence de lumière. C'est une pièce extrêmement colorée, puissamment orchestrée, vraiment un très grand orchestre.
C'est une belle pièce. Hein.
Mais une belle pièce, oui. Vraiment. Mais une pièce qui ne renie pas, évidemment, le style musical de son époque. On croit entendre l'influence de Vincent d'Indy, justement, ou de César Franck. Hein. Et puis, enfin, est arrivée donc Martha Argerich. Et alors, dès qu'elle arrive, il se passe quelque chose. Et là, il s'est instauré une sorte de dialogue fervent entre le piano et l'orchestre. Il faut remarquer quand même un double équilibre. Il y avait à la fois un équilibre extraordinaire entre les deux mains de la pianiste et entre le piano et l'orchestre. Jamais l'orchestre n'a couvert le piano. Le piano savait s'intégrer dans la sonorité de l'orchestre. Ce qui a le plus frappé, c'est l'extrême musicalité de cette interprétation, alors qui transcende tout à fait la perfection technique. Inutile de dire que, techniquement, la virtuosité est là.
Oui, elle sait un petit peu jouer du piano, Martha Argerich.
Oui, un petit peu, comme vous dites, oui, en effet. Mais vraiment, ça passe en second. On ne pense même pas à la perfection technique, tant la perfection musicale est présente. Donc, un grand moment avec, dès le premier mouvement, il y a une longue introduction à l'orchestre et dès que le piano émerge, eh bien, c'est le soleil, hein, et un sourire. Hein, on a l'impression que son piano sourit, c'est une chose extraordinaire. Avec un largo qui prolonge avec une grande émotion le dialogue entre le clavier et l'orchestre. Et alors là, on s'est aperçu qu'elle a enrichi le texte d'ornementation, mais qui semble improvisé, naître spontanément sous ses doigts. Donc c'était vraiment magique en quelque sorte. Et puis avec un rondo final à la fois brillant, dynamique, gai et une apothéose d'une véritable jubilation entre l'orchestre et le piano. Donc c'était vraiment un des plus beaux concerts de piano auxquels j'ai pu assister depuis des années, je dois dire.
Et pourtant, vous en voyez.
Et pourtant, j'en vois pas mal. Alors, elle a été acclamée, évidemment. Elle a eu un véritable triomphe. Et donc, elle a donné un bis. Elle a joué Traumeswirren, ça veut dire rêve confus, extrait des Fantasiestücke de l'opus 12 de Schumann. Et de nouveau, c'était une explosion de joie. Voilà, un grand bonheur. Et alors, le reste du concert, c'était la 8e symphonie en sol majeur de Dvorak, qui prolongeait encore la manifestation d'exubérance, puisque Renaud Capuçon a dirigé cette œuvre avec une énergie débordante, avec un allegro con brio initial à la fois vif, nerveux, presque violent par moments, et puis un adagio avec une intervention vraiment très remarquée du violon solo qui était ce soir Jaewon Kim, la super soliste qui alterne avec Christy Giesi et qui a magnifiquement joué ce solo. Puis un scherzo allegretto grazioso avec cette mélodie populaire très typique hein, d'Europe centrale. Et enfin, pour le final, qui s'ouvre sur une sonnerie impérieuse de la trompette, très chaleureux et très animé sous la direction de Renaud Capuçon. Vraiment une vitalité irrésistible avec encore une explosion à la fin de cette symphonie.
Très belle soirée et nous allons avoir la chance de pouvoir réécouter Martha Argerich dans l'exécution du 3e mouvement Rondo Allegro Scherzando du concerto numéro 1 de Beethoven, tel que vous l'avez entendu à la Halle au Grain avec l'Orchestre National du Capitole dirigé par Renaud Capuçon, même s'il s'agit ici d'un enregistrement capté lors d'un concert donné le lendemain, le 11 avril, au Grand Théâtre de Provence en ouverture du Festival de Pâques à Aix.
Thank you.
Martha Argerich, bientôt 84 ans dans le troisième mouvement Rondo Allegro Scherzando du concerto numéro 1 de Beethoven, accompagné par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Renaud Capuçon, une captation du concert du vendredi 11 avril au Grand Théâtre de Provence lors de l'ouverture du Festival de Pâques à Aix. Fin de cette première partie d'émission, petite virgule musicale avant de retrouver Serge Chosy et notre invité d'honneur Christopher Gibert pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
L'agenda de Mélomanie va donc être largement consacré à la prochaine édition du Festival de l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue. C'est la troisième et elle a lieu cette année du 14 juillet au 17 août. À ce propos, Christopher Gibert, vous avez changé les dates du festival, puisque si ma mémoire est bonne, les deux premières éditions s'étaient déroulées lors de la première quinzaine de juillet. Quelle est la raison de ce changement? Vous voulez étaler sur l'ensemble de la saison estivale?
Et oui Eric, bonjour à tous. Donc en effet, le Festival de Beaulieu cette année va se déployer sur tout l'été. C'est dans les gorges de l'Aveyron, proche de Najac, Saint-Antonin-Nobleval, dans cette zone de merveille.
Ah, moi qui connais le coin, c'est magnifique. Ça, je peux le garantir à ceux qui ne connaissent pas, c'est très beau.
Et du coup, notre objectif est en effet de déployer vraiment le festival dans toute une logique estivale, donc avec ce cœur d'été, bien sûr, du 14 juillet au 17 août.
Si on devait définir le concept, la formule, je ne sais pas comment il faut dire, du Festival de l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, outre le fait, vous venez de le rappeler, qu'il se déroule dans un coin de France superbe et dans un lieu patrimonial splendide qui abrite une magnifique collection d'art moderne, on peut dire qu'il est centré sur la voie, mais autour d'une programmation résolument éclectique et pluridisciplinaire.
Vous avez tout à fait bien résumé. Quand on arrive à Beaulieu, on est stupéfait par cette abbatiale monumentale des premiers gothiques, finalement, avec cette acoustique très cistercienne. Et c'est ce qui nous a touché dès qu'on a foulé les premiers pavés de ce monument, qui appartient aux monuments nationaux, il faut le rappeler. C'est cette acoustique fabuleuse de l'abbatiale. Et on s'est dit, qu'est-ce qui sonne dans ce monument de manière évidente? C'est la voix. Et donc, avec l'administrateur de l'époque, Benoît Grécourt, nous avons imaginé un rendez-vous éclectique en jouant sur les espaces de l'abbaye, donc avec comme épicentre, bien sûr, cette abbatiale, mais aussi avec d'autres espaces comme le jardin de roses, où plus de 2000 rosiers ont été plantés.
Et oui, le parc est splendide aussi.
Ou encore le cloître, qui est donc un ancien cloître où il reste tous les bâtiments conventuels autour et dans lequel l'acoustique extérieure est somme toute aussi tout à fait intéressante. Donc, on a ces trois espaces principaux qui nous permettent d'avoir tout cet éclectisme autour de la voix dans tous ses états.
En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Programmation 2025 maintenant, l'ouverture de cette troisième édition a lieu le lundi 14 juillet à 21h avec votre ensemble, Dulce Jubilo, associé à l'autre Big Band. Vous aurez compris que c'est une formation de jazz et dans un programme intitulé Echoes of America. Dès le départ, vous annoncez la couleur, si je puis dire, concernant l'éclectisme du festival avec cette association un peu inattendue entre un chœur qui est souvent plutôt dans la musique baroque. Okay. Hein, c'est votre
oui,
cœur
de
répertoire,
de classique, du
pas seulement, mais classique,
ouais.
Voilà. Et donc, vous ouvrez avec cette formule où on mélange les genres.
Tout à fait. Et donc, c'est une volonté de notre ensemble d'avoir ouvert vraiment cet éclectisme aussi dans le répertoire que l'on fait. Réunir un cœur plutôt classiques avec une formation délibérément jazz, le big band, et de les associer autour d'un programme vraiment fait sur mesure. C'est-à-dire que c'est pas non plus un patchwork de pièces qui s'enchaînent les unes après les autres.
Un peu voilà.
C'est-à-dire que le cœur du programme, c'est tout de même des arrangements originaux et sur mesure pour cette formation-là. Donc vous allez retrouver les grandes pages de West Side Story, des arrangements de standards de jazz, It Don't Mean a Thing par exemple, ou le fameux Summertime aussi de Gershwin. Et ce qui nous paraissait important, c'était aussi bien sûr de montrer les deux personnalités instrumentales. Donc il y aura l'instrument voix, chœur, avec deux pièces a cappella, donc La News Day de Barber, une pièce de Whitaker aussi assez développée autour du rêve de Léonard de Vinci, une sorte de pièce assez madrigalesque, et également une grande pièce d'orchestre de Kenny Wheeler, donc un compositeur canadien, qui a fait une magnifique musique for large ensemble, qui sera interprétée également lors de cette ouverture relativement et résolument festive. Et donc nous sommes 30 sur scène, hein, donc c'est une grosse production chorale et orchestrale.
Voilà, et dans ce programme, on retrouve effectivement les grands compositeurs américains du XXe siècle, hein, Leonard Bernstein, George Gershwin et puis Samuel Barber, dont on va entendre l'Agnus Dei. Alors, les gens connaissent l'adagio. Cet adagio, en fait, c'est le deuxième mouvement d'un quatuor à cordes. Et il a mis dessus les paroles d'un Agnus Dei, et il en a fait un Agnus Dei. Et je vous propose de l'écouter, ce fameux Agnus Dei, parce qu'il est magnifique, dans une version enregistrée par le chœur Accentus, dirigé par sa fondatrice, Laurence Equilbet. L'Agnus Dei magnifique de Samuel Barber dans la version enregistrée par le chœur Accentus, une des pièces au programme du concert d'ouverture du festival le 14 juillet. Le suivant est donné le jeudi 17 à 20h30 et on va changer complètement de registre, ce qui va arriver souvent pendant toute la durée du festival. Là, c'est l'ensemble Samanour, je ne sais pas si je prononce bien, qui va se produire avec un programme de musique du pourtour méditerranéen. Ça aussi, c'est très très beau si vous êtes amateur du genre.
Oui, tout à fait. C'est une réunion de musique traditionnelle, on pourrait dire musique du monde maintenant, avec aussi beaucoup de poésie, parce qu'il y a aussi un récitant, c'est important de le dire. Donc c'est musique et texte. Donc vous allez aussi pouvoir comprendre les paroles, rentrer dans les mots de ces poésies magnifiques. C'est une réunion de 5 artistes avec une Bulgare, un Franco-Libanais, un Syrien d'origine palestinienne, un Franco-Irakien et Michel Volkovitsky en récitant qui est Franco-Russe. Donc voilà, une belle réunion de famille avec toutes ces musiques qui vont s'entremêler avec un fil conducteur qui est cette poésie en fait de ces textes.
Là, c'est Mémoire des mers, hein, le titre du programme, jeudi 17 juillet à 20h30 à l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue. La suite c'est le dimanche 20 juillet à 17h, les dimanches les concerts ont lieu à 17h sauf le concert de clôture, mais ça ce sera pour plus tard. Et là on va avoir du jazz vocal avec la chanteuse Lucille Rentz et le Fluffy Fox Trio, du renard en pluche, qui proposent leur programme It's Day Lovely. Lucille Rentz, on la connaît hein, comme chanteuse de formation lyrique, notamment avec votre ensemble, Dulce Jubilo, parfois aussi avec Les Passions de Montauban. Et là, on la découvre en chanteuse de jazz, une musique qu'elle affectionne depuis longtemps, je crois. Hein, c'est pas nouveau.
Oui, tout à fait. Lucille Rentz a ce talent aussi pour interpréter la musique jazz, et donc elle nous propose un magnifique répertoire autour de ces standards arrangés pour cette formation du Fluffy Fox. On a grand plaisir à accueillir leur concert avec la sortie de l'album au Festival de l'Abbaye de Beaulieu. Donc voilà, ce sera une après-midi comme vous pourrez en vivre régulièrement dans l'été à Beaulieu, où vous venez à 17h et dans le Jardin de Rose. Voilà, on vous propose un concert. Vous pouvez aller au salon de thé, déambuler dans le monument aussi avant ou après, et profiter de ce lieu. Et
donc, il faut vraiment profiter voilà. Hein, pour tout faire. Visiter la collection d'art moderne, se balader dans le parc, se balader dans le bâtiment et aller au concert. Alors, Fluffy Fox Trio, c'est Étienne Manchon au piano, George Storey à la contrebasse et Malou Evrard à la batterie. Et donc, il y aura des chansons. Alors, c'est les chansons qu'interprétaient Lafitte Gérald, Billie Holiday, Nancy Wilson. Mais on va écouter une suite d'extraits du programme It's Day Lovely, chanté par Lucille Rentz, accompagné par le Fluffy Fox Trio. Suite d'extraits du programme It's Day Lovely, chanté par Lucille Rentz, accompagné par le Fluffy Fox Trio. Je pense que les amateurs du genre ont apprécié qu'ils vont se précipiter afin de réserver leur place pour le concert du dimanche 20 juillet à 17h. Avant ça, s'ils le souhaitent, ils peuvent déjà aller les écouter. Ils vont se produire au Taquin à Toulouse dans quelques semaines. Alors, je ne sais plus si c'est fin mai, début juin. Je vous laisse regarder la programmation du Taquin. Jeudi 24 juillet à 20h30, nouveau changement de registre avec du théâtre musical proposé par l'ensemble vocal Méliade. Leur création a pour titre « Garce à vue ». J'ai bien dit « Garce à vue ». Tout un programme, et c'est garce au pluriel. Hein.
Et oui, il y en a plusieurs sur scène apparemment.
Oui, bah, on dirait, oui.
C'est un thriller vocal et théâtral. Donc elle le présente comme un huis clos policier, un homme meurt, il y a 5 femmes et donc le coupable est une coupable. Et elles ont tissé une histoire autour de ce drame où bien sûr vous allez entendre énormément de musique, mais de la musique mise en scène. Voilà, et donc c'est une belle originalité et donc on est très fiers à Beaulieu de les accueillir et de soutenir la création de ce spectacle aussi au festival lors de cette date le 24 juillet à 20h30 à l'Abbaye. Méliade, elles sont venues à la première édition.
Oui, il me semble bien.
Voilà, et elles avaient fait un bel effet à notre public et donc on a un très grand plaisir à les soutenir et à les retrouver lors de cette date.
Dimanche 27 juillet à 17h, on en arrive à la musique baroque, j'allais dire enfin, avec deux formations que nous connaissons bien, la vôtre, le chœur Luce Jubilo, et Les Passions, l'orchestre baroque de Montauban de Jean-Marc Andrieux, qui va d'ailleurs diriger ce concert intitulé 1643, l'héritage italien, Monteverdi, Carissimi, Charpentier. Je crois comprendre que vous voulez montrer ce que le baroque français doit au baroque italien.
Oui, et ce qui nous a amusé avec Jean-Marc Andrieux, c'est de partir de cette base de la date de 1643. 1643, il se passe plein de choses. Il y a des dates comme ça, pivot un peu dans l'histoire de la musique. Et en 1643, disparaît Claude Monteverdi. En 1643, naît Marc-Antoine Charpentier.
Oui, la coïncidence est troublante.
Et d'ailleurs, c'est aussi l'année de disparition de notre roi Louis XIII à l'époque.
Exact.
Quelle année, hein ?
Quelle année, n'est-ce pas ? Et donc, pourquoi Carissimi au milieu ? Carissimi a été le maître de Marc-Antoine Charpentier et il compose 5 ans après, en fait, cette date de 1643, le fameux Jefté de Carissimi. On s'est dit, tournons autour de cette date et c'est ce qui a fait cette cohérence dans ce programme avec ces génies de la musique baroque et vous sentirez aisément du coup les filiations de Monteverdi à Charpentier sans aucun problème. C'est pour ça aussi qu'on propose les deux litanies à la Vierge, première version de Monteverdi et dernière version si je puis dire de Marc-Antoine Charpentier avec les litanies pour Madame de Guise à 6 voix. Et instruments.
Un aller-retour entre la France et l'Italie baroque, dimanche 27 juillet à 17h, concert suivant. Vendredi 1er août à 20h30, il va y avoir une création, une autre, parce que c'est aussi un festival où vous soutenez la création contemporaine, création de la compagnie Talisman, Dialogo, qui réunit de la danse flamenco, des artistes circassiens et de la musique électro. Quand je parle d'éclectisme, là on est en plein dedans. Qu'est-ce qu'on veut y voir et y entendre plus précisément ?
Alors, Dialogo, c'est une compagnie avec l'ensemble Talisman qui est rattachée aussi au Festival de Caylus. Et le Festival de Caylus, du coup, fait par ailleurs, à cette date-là, son ouverture aussi au Festival de Beaulieu. Et donc, c'est aussi pour montrer ce travail en collaboration avec ces deux festivals de territoire. Et donc, ça nous paraissait tout naturel, finalement, de travailler ensemble sur cette création. Alors, qu'est-ce que vous allez y entendre ? Essentiellement des œuvres du compositeur Pierre Tillois, donc qui est rattaché à cette compagnie liée au Festival de Caylus, donc compositeur qui joue beaucoup sur le travail entre la voix, entre la musique électronique et qui travaille un peu sur les textures. Et je dirais que tout cela est sublimé par l'entremêlement de la danse, des circassiens bien sûr, et nous propose voilà un spectacle tout à fait original qui sera aussi une création comme vous l'avez très bien dit et donc voilà on reste dans cet esprit là. Il avait déjà en fait fait auparavant une création à Beaulieu dans cette lignée et donc c'est tout naturellement qu'il nous a paru facile de nous associer à cela pour continuer ce très beau travail de collaboration.
C'est une musique composée sur des poèmes et textes de Federico Garcia Lorca, Antonio Machado, Galileo Galilei et Rumi. Oui. Dimanche 3 août à 17h, c'est la chanson française qui est à l'honneur avec Poète vos papiers de Ferré à Ferra, une création alors, qui est née de la collaboration entre le chanteur Éric Pérez et le saxophoniste Jean-Marc Padovani. Le titre est assez explicite puisqu'il reprend celui d'une chanson de Léo Ferré, bien connue, et c'est un hommage à deux grandes figures de la chanson française engagée, on peut le dire comme ça.
Tout à fait, avec une belle kyrielle de musiciens sur scène, où on a donc Éric Pérez au chant, le grand saxophoniste Jean-Marc Padovani, qui a une carrière magnifique dans le jazz, mais aussi l'accordéoniste Alain Bruel, et le contrebassiste que les Toulousains connaîtront peut-être, Julien Dutu également.
Très bien connu dans le milieu du jazz à Toulouse et
voilà,
même dans la région.
Ça. Et donc, réunis autour de ces deux figures que sont Padovani et Pérez, nous allons faire un voyage entre Ferré et Ferra. Voilà, c'est très prometteur avec cette intelligence des mots et du texte qu'a Éric Pérez.
Et là aussi, il y a des amateurs du genre, je le sais. Dimanche 10 août à 17h, nous allons retrouver une chanteuse que j'apprécie beaucoup, Anne Bertin-Hugo, avec son ensemble Horiscus et un programme de musique médiévale constitué d'œuvres d'Hildegard von Bingen, grande personnalité à la fois religieuse, mystique et musicale, et j'en oublie, dont Anne-Bertin Gault est une véritable passionnée et une spécialiste.
Oui, tout à fait, une vraie spécialiste. Outre son talent d'interprète éclairé de ce répertoire, Anne-Bertin Gault était venue l'an dernier nous faire une conférence sur Hildegard von Bingen, et face à ce grand succès, nous avions convenu à l'issue même de cette conférence de prendre rendez-vous pour l'année suivante, et nous y voilà avec son ensemble Oriscus, trois musiciens formidables, avec Colin Heller qui joue plusieurs vielles, ces instruments médiévaux,
instrumentiste ancien,
tout à fait, avec des flûtes aussi par Marc Verwisch, et Anne bien sûr qui chante avec cette voix angélique mais également très charnue, hein, donc c'est une voix très incarnée pour ce répertoire là avec le programme Stella Maris autour de pièces à la Vierge. Bien sûr, Stella Maris, c'est l'étoile de la mer qui constitue le fil de ce programme.
Stella Maris, étoile de la mer, titre d'un CD qu'elle avait enregistré il y a quelques années sous le label Rocamadour Musique Sacrée. Bien, voici un extrait de ce CD et du programme Stella Maris, étoile de la mer. Le premier morceau intitulé Ave Maris Stella, chanté par Anne-Bertin Gault. Ave Maris Stella, chantée par Anne-Bertin Gault, accompagnée par Colin Heller. Ici, Anne-Bertin Gault et l'ensemble Oriscus donnent leur programme Stella Maris, étoile de la mer, dimanche 10 août à 17h, avant-dernier concert le mercredi 13 août à 20h30, avec la compagnie Les Cadets, qui présente un opéra comique en deux actes, d'après plusieurs opéras de Mozart. Les deux chanteurs de la compagnie Les Cadets, bah, c'est un couple qu'on a souvent entendu en concert, Serge et moi, bien connu à Toulouse et dans notre région, la soprano Clémence Garcia et le baryton Philippe.
Et oui, papa, c'est la suite de la flûte enchantée. Et donc Papageno et Papagena se sont bien sûr rencontrés lors de cette flûte, mais ils se projettent avec enthousiasme vers la vie familiale et surtout avec plein de petits papa et de Papagena. Et donc voilà, c'est une histoire assez drôle avec les problématiques d'une vie de famille des temps modernes, mais au milieu d'un opéra de Mozart. Et donc on aura plaisir à réentendre ces grands airs de Mozart, magnifiquement chantés par Clémence Garcia et Philippe Estef, mais avec nos problématiques bien d'aujourd'hui. Donc un rendez-vous assez amusant, mais de grande qualité musicale au demeurant.
Voilà, donc il y aura des extraits des Noces de Figaro, de Don Giovanni, de la flûte enchantée bien sûr, de Loi du Caire, de Zaïde, de Così fan tutte. Alors là, les Mozartiens vont se régaler, surtout que ce couple a un charme fou. On va avoir la chance de pouvoir les écouter, Clémence Garcia et Philippe Estef, dans le célèbre duo Papagena Papageno de la flûte enchantée.
Welche Freude wird das sein?
Wenn die Götter uns beneiden,
wenn die Götter
Papagena, Papageno de la flûte enchantée, extrait de l'opéra comique reprenant des airs d'opéra de Mozart que Clémence Garcia et Philippe Estève présentent avec la compagnie Les Cadets, mercredi 13 août à 20h30, et puis donc concert de clôture dimanche 17 août à 20h30 avec le chœur Dulci Jubilo et le toujours très médiatique Jean-François Zigel. Vous allez rendre hommage aux grands compositeurs français de la fin du 19e et du début du 20e siècle, donc ça va de Saint-Saëns à Ravel en passant par Fauré et Debussy, sans oublier la trop tôt disparue Lili Boulanger.
Oui, tout à fait. Et nous sommes très heureux d'accueillir Jean-François Zigel lors de cette clôture, qui nous fait donc l'amitié de venir à Beaulieu. Et c'est aussi un rendez-vous de l'improvisation. Il est bien connu pour ses qualités d'improvisateur. Et donc l'idée est de tisser un programme où l'improvisation prendra une grande part. Alors, on ne sait pas encore ce qu'il va vraiment faire. Ça sera vraiment un lien, en tout cas, entre ces compositeurs que vous avez évoqués et ces états d'âme, ces couleurs aussi, de ce monde formidable de la musique française du début du XXe siècle, fin 19e, début 20e. Et donc, nul doute qu'il saura, comme souvent, charmer les oreilles du public par ses talents d'improvisateur hors pair.
Et de vulgarisateur aussi. Pour conclure cette présentation de la programmation du Festival de l'Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue 2025, voici Les Djinns de Gabriel Fauré par le chœur Dulci Jubilo, accompagné au piano par Thomas Hospital. Les Djinns de Gabriel Fauré, interprété par le chœur Dulci Jubilo, accompagné au piano par Thomas Hospital. Une des œuvres au programme du concert que vous donnez avec Jean-François Zigel, dimanche 17 août à 20h30, en clôture de la troisième édition du Festival de l'Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue. Serge, il nous reste très peu de temps, mais on peut annoncer le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole et même les prochains concerts, puisque l'Ensemble Symphonique Toulousain va rendre hommage à Ennio Morricone lors de deux soirées consécutives, c'est jeudi 17 et vendredi 18 avril à 20h à la Halle aux Grains, qui sont les protagonistes de ces concerts et aux côtés de quel musicien notre cher Orchestre du Capitole va se produire.
Eh bien, il va se produire d'abord sous la direction de Frank Strobel. Et puis, il y aura une soprano, Gania Benyur Axelrod, Et puis avec le chœur de l'Opéra National du Capitole, hein, avec au programme une ribambelle des musiques qu'a composé Ennio Morricone.
Ouais, on a vraiment l'embarras du choix.
Ah, oui,
et même
là,
le choix de l'embarras, vraiment, parce que ça ne doit pas être évident.
On
exclure certaines.
Ouais.
La présence de Gania Ben-Gur Axelrod laisse à penser qu'on trouve dans ce programme dédié aux musiques d'Ennio Morricone un air célèbre entre tous dans l'œuvre du compositeur italien. Extrait de la bande originale du film Il était une fois dans l'Ouest, réalisé par Sergio Leone. On l'écoute dans une version chantée par la soprano américaine. L'un des airs les plus célèbres d'Il était une fois dans l'Ouest et l'un des airs les plus fameux composés par Ennio Morricone, interprété par la soprano américaine Gania Ben-Gur Axelrod, qui le chantera certainement lors du concert hommage au compositeur italien aux côtés de l'Orchestre National du Capitole, c'est jeudi 17 et vendredi 18 avril à 20h à la Halle aux Grains. C'est donc Franz Strobel qui va officier à la direction. Le chœur de l'Opéra National du Capitole étant aussi de la partie. Je ne sais pas s'il reste encore des places, mais si vous souhaitez assister à l'une de ces soirées, je vous conseille d'acheter très rapidement vos billets en vous connectant au site www.onct.toulouse.fr. Et puis je rappelle bien sûr que la troisième édition du Festival de l'Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue a lieu du 14 juillet au 17 août avec le très beau programme que nous avons présenté lors de cette émission. Tous les concerts se déroulent dans le cadre superbe de l'abbaye. Les détails de la programmation et la billetterie sont en ligne sur le site www.festivalabbayedebeaulieu.fr. Je remercie Serge Chauzy qui a co-animé ce numéro avec moi, tout comme je remercie Christopher Gibert d'être venu nous présenter son festival. Merci aussi à Jonathan Botello qui a assuré aujourd'hui la réalisation de cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous ceux qui nous ont écoutés. Excellente semaine musicale à tous.